Radio Espoir.
Vous rappelons simplement, auditeurs, que le prélat, le président de cette Eucharistie, a donné un message assez fort. Nous sommes avec le président de cette Eucharistie, Monseigneur Antoine Conné, se prêter à nos questions.
Les Ivoiriens doivent retenir que la paix que nous recherchons, n'est-ce pas, est un bien inestimable. Les gens pensent que c'est une donnée de fait. Non. La paix est à rechercher à tout moment. Mieux, elle est à construire. Elle est à construire par notre manière de vivre. Le président Félix Fauboyen disait que la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. C'est une manière d'être, c'est une manière de faire pour que la paix advienne. Donc, ceux qui pensent que la paix est une donnée de fait se trompent. Et pour nous, chrétiens catholiques, nous confessons que la paix s'origine en Dieu lui-même. La paix s'origine en Dieu lui-même, c'est quand nous disons que la paix est un don de Dieu. Et comme la paix vient de Dieu, Dieu la donne à qui il veut. Mais il la donne à ceux qui ont des prédispositions, c'est-à-dire à ceux qui travaillent déjà pour la paix. Effectivement, Dieu ne saurait donner cette paix, effectivement, à celui qui a un cœur qui fait la guerre. Mais à celui qui dispose déjà son cœur, effectivement, à travailler à la paix, Dieu donne cette paix-là. Quand vous la recherchez, vous la demandez à Dieu, Dieu vous la donne. Donc, cette paix-là, donc les Ivoiriens doivent la construire tous les jours. Tous les jours. Les gens pensent le plus souvent que la paix, c'est l'absence de guerre, l'absence de conflits, etc. Non, c'est vrai. Quand il y a la calmie, c'est bon. Mais cela ne suffit pas. Ah, parce qu'il peut y avoir la calmie alors que les gens ont leur cœur qui fait la guerre. Oui. Tant que les gens, effectivement, ne gagnent pas à manger, n'arrivent pas à scolariser leurs enfants, vous êtes d'accord avec moi que, effectivement, ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Leur cœur fait la guerre. Et quand c'est trop plein, ça explose. Et on est étonné. Donc nous devons travailler à ce que tous les habitants de ce pays, effectivement, qu'on appelle, parviennent à trouver le minimum vital. Il n'est pas normal que quelques-uns, n'est-ce pas, s'accaparent de tout, effectivement, et vivent dans cette opulence et que la plus grande masse, effectivement, croupit dans la misère. C'est sûr que cette population qui souffre là ne dit rien, mais il peut advenir un jour que, exaspéré, que la population explose et que Dieu nous en garde.
Alors, Monseigneur, vous avez affirmé dans votre homilie que cette journée nous invite à prendre des résolutions fermes pour préserver la paix. Quelles sont ces résolutions?
Les résolutions que nous devons prendre pour préserver la paix, il faudrait que, comme je l'ai dit, que nos hommes politiques soient épris d'humilité. Il faut beaucoup d'humilité de leur part. Et que, mûs par l'humilité, que nos hommes politiques, n'est-ce pas, consentent à se rencontrer vraiment sans hypocrisie, dans la vérité. Comme je l'ai dit, c'est vrai qu'il y a quelques rencontres actuellement qui ont lieu. Nous avons vu le président de la République rencontrer le président Bédier. Nous avons vu le président de la République rencontrer le président Guillaume Soro. Nous avons vu le président Guillaume Soro rencontrer le président Bédier. Mais cela ne nous rassure pas. Est-ce que c'est sincère ou c'est simplement des calculs politiciens pour qu'au moment venu, on poignarde dans le dos? C'est cela qui est à voir. Donc je voudrais que nos hommes politiques, effectivement, soient francs. Et nous, les hommes religieux, c'est-à-dire les évêques, nous devons les aider. Nous devons les amener à s'asseoir. S'ils ne veulent pas s'asseoir, on va les faire asseoir. C'est pourquoi nous avons les crosses. Les djoulas disent que quand tu veux inviter le sourd à la course, quand tu veux l'inviter à la course, là, il faut le frapper par la nuque. Nous avons ces crosses-là. Si les politiciens ne veulent pas, nous, les hommes religieux, nous allons prendre ces crosses-là, les frapper par la nuque pour les faire asseoir, n'est-ce pas, pour le bien du peuple. Il faut qu'ils s'asseyent pour se parler, pour qu'effectivement, nous soyons sûrs que ce que nous avons vécu, nous n'allons plus effectivement le revivre à nouveau.
Radio Espoir, plus que jamais, vous communique la vie de Dieu. Radio Espoir, l'amour de Dieu dans vos cœurs et dans vos foyers.
La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105.
Radio Espoir vous propose l'homélie de son Excellence, Monseigneur Antoine Conné, président de la Commission épiscopale Justice et Paix, à l'occasion de la célébration de la Journée de la Paix, ce mercredi 15 novembre, à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville.
Tu
Excellence, Monseigneur Ignace Bessy Dobo, président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs les présidents des institutions de la République, Madame la représentante du vice-président de la République, Madame Flore Kwame, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les responsables des partis politiques, Mesdames et Messieurs les élus locaux, dignitaires guides religieux, Reverend Père, fidèles collaborateurs, frères et sœurs en Jésus-Christ, chers compatriotes, Ivoiriennes et Ivoiriens, hommes et femmes de bonne volonté, je vous salue avec la plus grande révérence et la plus haute considération. La paix n'est pas un mot, mais un comportement. La journée nationale de prière pour la paix que nous célébrons aujourd'hui me donne l'occasion de saluer et d'apprécier à sa juste valeur le travail accompli par mes prédécesseurs dans ce vaste champ de la justice et de la paix. Aussi, je reconnais et je mesure l'immense travail abattu par tous leurs collaborateurs. À ces hommes et à ces femmes, je voudrais chanter ma reconnaissance pour leur disponibilité, leur abnégation et leur sens de la responsabilité dans le combat toujours actuel pour la défense de la dignité de la personne humaine et le redressement de toutes les situations sociales qui peuvent mettre en péril la paix si chère à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, à tous et à toutes, j'exprime ici et maintenant la profonde gratitude de l'Église. Je les engage à renouveler chaque jour leur détermination dans cette noble et exigeante mission de l'annonce de l'Évangile d'amour, de pardon, de partage, de solidarité et de fraternité. De la réalisation effective de cette mission découlent tous les ingrédients spirituels et sociologiques pour la stabilité et la consolidation de la paix dans une nation. Oui, nous voici de nouveau rendus au 15 novembre. Un autre 15 novembre. 15 novembre, un jour si précieux pour la Côte d'Ivoire. 15 novembre, un jour hautement apprécié par tous les habitants de ce beau pays qui, chaque année, ont décidé de dédier cette journée à la paix. Le faisant, ils ont bien conscience que cette denrée si inestimable, sans cesse menacée sous nos cieux et partout dans le monde, est à rechercher, à protéger et à défendre. Mieux, elle est à construire patiemment et à consolider au moyen de mille efforts, car la paix constitue le terreau fertile non seulement de tout développement socio-économique, mais encore et surtout de toute promotion et de tout épanouissement intégral de la personne humaine. C'est ici le lieu de rappeler à notre mémoire le souvenir d'un homme d'exception, un homme d'une rare densité intérieure, un homme solidement réconcilié avec lui-même par bien des efforts personnels et accordé aux autres, un homme amoureux de l'homme parce qu'amoureux de Dieu, parce que portant l'amour du frère comme une mission politique. J'ai nommé Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Son engagement au service de la paix aura permis à notre pays de faire un bond prodigieux sur le chemin du progrès, au bénéfice et des Ivoiriens et des ressortissants des pays frères accourus sur cette terre pour participer ardemment à son effort de développement. Le vieux, comme on l'a affectueusement appelé, a compris avec l'Église que la paix est un autre nom du développement quand il disait que la paix est un comportement et non des mots. Oui, le président Félix Houphouët-Boigny, de vénérée mémoire, aura réussi à faire de la Côte d'Ivoire une terre d'accueil pour tous, une patrie d'espérance, d'hospitalité et de vraie fraternité, où la paix devrait constituer une sorte de seconde religion pour tous. Son panafricanisme n'était pas de la théorie, pas de la pratique d'une Côte d'Ivoire first, la Côte d'Ivoire au devant ou d'abord, en associant toutes les populations des pays voisins au développement de la Côte d'Ivoire et partant celui des autres pays. Ce qu'on a appelé son égoïsme national consista à construire la Côte d'Ivoire pour entraîner les autres pays. Les Ivoiriens ne doivent pas se voiler les yeux sur cette donnée de l'action pacifique et pacificatrice de Félix Houphouët-Boigny. Il suffit de relire son action politique sous cet angle particulier que la paix a été vécue dans son existence politique comme sociale, comme un devoir pour le développement et de son pays et des autres pays. Comprendre cela, c'est comprendre son souci de la paix avec laquelle seule se développe une nation. L'Église catholique salue cette initiative de faire concourir tous les peuples africains à la paix et comprend cette promesse politique pour en faire un projet divin. Car notre Église est au cœur du monde et dans l'histoire de l'humanité, un instrument de Dieu qui se met à l'écoute de chaque situation qui touche à la vie de l'homme. Et comme le souligne si bien le document conciliaire Gaudium et Spes, dans son avant-propos, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et ceux qui souffrent, sont les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté, en effet, s'édifie avec des hommes rassemblés dans le Christ, conduits par l'Esprit Saint dans leur marche vers le royaume du Père et porteurs d'un message de salut à proposer à tous. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. Frères et sœurs, il est donc bien légitime que les hommes de notre temps, plus que jamais, aspirent à la paix comme source du vrai progrès et de la véritable prospérité. Cependant, l'on devra s'accorder à reconnaître que la grâce de la paix s'origine en Dieu lui-même. C'est pourquoi l'Église professe et proclame que la paix est un don de Dieu. Pour nous les chrétiens, la paix s'identifie non à une chose quelconque ou une réalité abstraite, mais à la personne du Christ, Fils de Dieu incarné. C'est bien cette vérité absolue que confesse l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens. En effet, proclame-t-il solennellement, c'est lui le Christ qui est notre paix. De ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. Il a aboli la loi et ses commandements avec leur observance. Il a voulu ainsi, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, tous les deux, en un seul corps, au moyen de la croix. Là, il a tué la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Éphésiens 2, versets 14 à 17. C'est pour ainsi dire que la paix que nous appelons de tous nos voeux et que nous recherchons par toutes sortes de tractations est une réalité qui nous dépasse et qui ne trouve toute sa signification qu'en Dieu. La paix n'est pas simplement l'absence de guerre ou de conflit. La paix n'est pas seulement le fait qu'on ne se soulève pas. La paix n'est pas l'absence de soulèvement, comme nous tenterions de le croire. La paix n'est pas la paix à la romaine, la Pax Romana, qui consiste à brimer la liberté, à étouffer toute velléité de plainte sur l'infortune, tout sentiment de révolte pour le triste traitement qu'on subit ou de la situation infra-humaine dans laquelle on vit. Non, la paix n'est pas la paix, là n'est pas la paix, mais la paix, la vraie paix que donne le Christ au lendemain de Pâques est de l'ordre divin. Elle est don de Dieu. Elle est la récompense promise et donnée à tous ceux qui font œuvre de paix à travers leur comportement empreint de fraternité et de charité. Oui, la paix dont il est question ici, audible et compréhensible par tout homme et qui trouve son fondement en Dieu, se caractérise par la simplicité et la sincérité, par la vérité et l'amour, par la justice et le pardon, par l'ouverture et la tolérance, par le partage et la solidarité dans les rapports interpersonnels et les relations entre les nations et les États. La paix que donne Jésus-Christ se fonde sur la préservation de la dignité de la personne humaine et l'option préférentielle des pauvres, des marginalisés, des malades, tous ceux et celles qui vivent encore à la périphérie de tous les progrès économiques et sociaux qu'offre notre civilisation moderne aux hommes et aux femmes de ce temps. La justice sociale et la solidarité réelle entre les personnes et les communautés sont constitutives de la paix sociale. Et tous les profiteurs, sans doute inconscients de la misère du petit peuple, ainsi que les politiciens qui travaillent pour leur seul avenir, doivent s'éveiller aux possibles conséquences révolutionnaires violentes d'une société en proie à l'abandon et à l'exaspération de sa souffrance. L'Église en appelle à un réveil de la conscience nationale, des dirigeants sommeilleux, fauteurs de troubles sociaux et des partis politiques pour entendre ce que l'Esprit de Dieu dit à notre Église et partant à toute la société ivoirienne sur la paix. C'est à cette paix, en Christ sereine et féconde, en joie, à cette paix dynamique et porteuse des fondamentaux de la réconciliation et de la fraternité, que j'invite solennellement le peuple chrétien, tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, à s'engager avec foi et détermination. Bien chers frères et sœurs, la célébration de cette journée nationale de paix nous invite chaque année à une prise de conscience sur tous les périls qui peuvent mettre en mal la paix. Mais surtout, la célébration de cette journée nous engage à prendre des résolutions fermes pour la préservation de la paix. Aussi voudrais-je me permettre de vous lancer cet appel avec les mots mêmes de l'apôtre Paul. Nous sommes donc en ambassade pour le Christ. C'est comme si Dieu vous exhortait par nous. Nous vous supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. C'est donc par le Christ et à travers Dieu que toute réconciliation entre les hommes et les peuples trouve tout son sens et sa solidité. Pour sa part, le pape émérite Benoît XVI invite l'Église d'Afrique dans toutes ses composantes à comprendre sa mission à la suite du Christ comme don précieux. L'engagement de l'Afrique pour le Seigneur Jésus-Christ est un trésor précieux que je confie en ce début du millénaire aux évêques, aux prêtres, aux diacres permanents, aux personnes consacrées, aux catéchistes et aux laïcs de ce cher continent et des îles voisines. Cette mission porte l'Afrique à approfondir sa foi chrétienne. Elle l'invite à vivre au nom de Jésus la réconciliation entre les personnes et les communautés et à promouvoir pour tous la paix et la justice dans la vérité. La réconciliation est donc une mission fondamentale de tous les disciples du Christ qui entendent établir sur terre le règne de paix et d'amour de Jésus-Christ. Pour ma part, je suis persuadé que là où les diplomaties les plus raffinées et les plus persuasives ont échoué à réconcilier les hommes et les peuples, seul le Christ peut nous ouvrir un chemin définitif de paix et de réconciliation. C'est cette vérité que souligne avec force les pères synodaux quand ils disent « La paix authentique vient du Christ. Elle n'est pas comparable à celle du monde. Elle n'est pas le fruit de négociations et d'accords diplomatiques fondés sur des intérêts. C'est la paix de l'humanité réconciliée avec elle-même en Dieu et dont l'Église est le sacrement. » En définitive, la paix véritable se construit dans un processus qui prend sa source en Jésus-Christ et s'achève en lui. En dehors de lui, toute situation de paix est précaire et fragile. Bien chers frères et sœurs, à ce stade de mon propos, je voudrais m'adresser particulièrement à certaines catégories politiques et sociales de la nation pour leur lancer un appel au nom du Christ. En premier lieu, je voudrais saluer avec déférence les gouvernants de notre pays qui, dès l'accession au pouvoir d'État, ont pris le pouls de la situation. Ils ont très tôt compris que ce qui s'avérait urgent pour le pays après la crise, terrible crise post-électorale, était d'amener les filles et fils de la Côte d'Ivoire à emprunter le chemin de la réconciliation en vue d'un vivre ensemble harmonieux. Ainsi, des actions multipliées ont été menées ici et là pour rendre possible la cohésion sociale au sein des populations. De la sorte, beaucoup de plaies ont été pansées, des cœurs apaisés, et les frères et sœurs ont réappris à se parler, à vivre ensemble. De nombreux exilés ont effectué leur retour au pays. Nombre de ceux et celles internés dans nos prisons ont retrouvé la liberté. Cependant, il ne faut point se voiler la face, car la situation sociale demeure préoccupante. Un malaise profond continue d'exister sur le terrain. Bien que de nombreux ateliers sont organisés à coups de millions ou de milliards pour le retour à la paix, force est de constater que les fruits enregistrés sont en deçà des attentes. Disons qu'une sorte de psychose étreint les esprits et les cœurs. Oui, l'on a peur du lendemain. D'ailleurs, la grande chancelière, la respectée professeure Henriette Diagri-Diabaté l'a si bien perçue qu'elle s'est interrogée en ces termes au cours de la commémoration de la fête nationale le 7 août 2017. Elle disait, souvenons-nous, nous avons eu du mal à nous relancer après le décès du président Félix Houphouët-Boigny. Souvenons-nous, notre transition démocratique s'est terminée en crise post-électorale dramatique. Que ferons-nous après 2020 ? Et que faisons-nous aujourd'hui en 2017 ? La Côte d'Ivoire, notre bien commun, est plus important que chacun et chacune de nous. De grâce, épargnons-nous une autre crise. Fin de citation. Mais comment rendre la paix possible quand des personnes continuent de ruminer leur colère et d'attendre l'occasion rêvée pour se venger ou pour laver l'affront? Et comment convaincre les frères et sœurs qui, malgré tout appel, refusent de mettre un terme à leur exil, malgré les conditions quelquefois exécrables dans lesquelles ils vivent? comme à terre la révolte très perceptible de ceux ou celles qui ne supportent plus de voir leurs sœurs ou leurs frères continuer de croupir dans les prisons disséminées à travers le pays. Tels sont les problèmes qui demeurent et menacent la paix en terre burnéenne et doivent trouver solution en Ivoirien. Et il faut prier encore pour cela. Oui, les Ivoiriens et Ivoiriennes doivent se montrer plus inventifs en termes de réconciliation. Pour rendre la paix effective entre les fils et les filles de ce pays, aussi, l'avenir pacifique et harmonieux de notre pays dépend surtout des hommes politiques de tous bords. Puissent-ils se laisser habiter par l'esprit d'humilité pour aborder les questions politiques qui se posent en Côte d'Ivoire tant que l'orgueil chez eux sera de mise, il y a à craindre de pires lendemains pour la Côte d'Ivoire. Oui, puissent-ils se laisser habiter par l'esprit d'humilité pour aborder les questions politiques qui se pose en Côte d'Ivoire, car tant que l'orgueil chez eux sera de mise, il y a à craindre de pire lendemain pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il s'avère impérieux de convaincre les partis politiques à engager entre eux un dialogue franc. Il s'avère impérieux de convaincre les partis politiques à engager entre eux un dialogue franc. Qui augurent de leur hauteur de vue politique au profit de la nation. À ce propos, une idée chère au souverain pontife François. À cette occasion, je souhaite, dit le pape François, m'arrêter sur la non-violence comme style d'une politique de paix. Et je demande à Dieu de nous aider tous à puiser à la non-violence dans les profondeurs de nos sentiments et la non-violence qui guide la manière dont nous traitons les uns et les autres dans les relations interpersonnelles, dans les relations sociales et dans les relations internationales. Oui, je souhaite, dit le pape François, m'arrêter sur la non-violence comme style d'une politique de paix. Et je demande à Dieu de nous aider tous à puiser à la non-violence dans les profondeurs de nos sentiments et de nos valeurs personnelles. Que ce soit la charité et la non-violence qui guident la manière dont nous traitons les uns les autres dans les relations interpersonnelles, dans les relations sociales et dans les relations interpersonnelles. Lorsqu'elles savent résister à la tentation de vengeance, les victimes de la violence peuvent être les protagonistes les plus crédibles du processus non-violent de construction de la paix. Depuis le niveau local et quotidien, jusqu'à celui de l'ordre mondial, puisse la non-violence devenir le style caractéristique de nos décisions, de nos relations, de nos actions, de la politique sous toutes ses formes. Message du pape François à l'occasion de la célébration de la 50e journée pour la paix. Aussi, voudrais-je humblement et en toute collégialité solidaire et affective nous lancer un appel solennel à nous tous, confrères évêques, afin que chacun entre en jeu pour encourager davantage nos hommes politiques à se parler en toute vérité. Là est le geste prophétique que l'Église attend de nous. Je demeure convaincu que de par nos statuts de père de tous, nous les évêques, nous sommes à même d'éclairer et d'amener nos politiciens au changement de mentalité en vue d'une rencontre authentique qui boosterait la cohésion sociale. Avec les évêques, je voudrais me permettre, au titre de mon ministère ecclésial, d'engager tous les imams, tous les pasteurs et tous les hommes de Dieu à encourager nos hommes politiques de se parler sans hypocrisie pour donner à la paix d'advenir dans notre pays. Déjà, l'on peut noter avec satisfaction quelques pas timides de rencontres entre certains hommes politiques. Toutefois, cela ne suffit guère et ne saurait rassurer personne. Toutefois, cela ne suffit guère et ne saurait rassurer personne. Est-ce des rendez-vous sincères ou des calculs politiciens où l'on est toujours prêt à poignarder dans le dos le moment venu. Est-ce des rendez-vous sincères ou des calculs politiciens où l'on est toujours prêt à poignarder dans le dos le moment venu? La question est posée d'elle. Tous, nous le constatons, l'heure n'est point à la sérénité en ébûrnie. Il faut avoir le courage de dire publiquement cette évidence pour avoir le courage de travailler à la paix. En effet, ce n'est point la relative accalmie que l'on enregistre dans la capitale et dans nombre de nos villes qui pourrait occulter la réalité de colère, de rancœur ou de haine entretenue par beaucoup de nos frères et sœurs. Il faut accepter de faire la situation des lieux et travailler à son amélioration par tous les moyens pacifiques. En effet, la situation de guerre ouverte entre frères ivoiriens à Guiglo est là, dressée sous nos yeux. Oui, des frères et sœurs ivoiriens sont contraints de quitter leur campement, dépossédés et dépouillés de tout pour regagner leur village d'origine, les mains vides. Mais pourrait-on savoir un jour toute la vérité sur cette folie meurtrière qui s'est emparée brusquement des uns et des autres? Quelles sont les raisons profondes d'une telle disconvenue entre ces personnes qui ont toujours vécu ensemble? Et il ne s'agit guère, puisqu'il y en a qui le font, il ne s'agit guère de se réjouir de ce que la situation sociale redevienne normale. Au jour le jour, on dit non, la situation devient normale. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'aller à la racine fâcheuse de ce conflit, l'extirper définitivement pour donner la chance à la paix dans cette contrée de notre pays. Aussi, outre le cas de Guiglo, osons trouver solution à tous les problèmes qui ont cours sur toute l'étendue du territoire. Oui, partout encore dans le pays, il y a un conflit foncier latent. Partout encore dans le pays, il y a un conflit foncier latent. L'heure ne serait-elle pas venue de revoir notre système agricole, notre politique en matière agricole? N'est-il pas révolu le temps de défrichage d'immenses surfaces de terrain en vue de la culture de plusieurs hectares de produits de rente qui, en fin de compte, ne produit pas grand-chose? Ainsi, on détruit chaque jour davantage la forêt, inutilement, exposant toutes nos populations à la rareté des sols cultivables, source de conflits et du réchauffement climatique qui se traduit sur le terrain, soit par des pluies diluviennes dévastant tout sur leur passage, soit par le manque criard de précipitations engendrant la faim. Là est le dérèglement climatique préjudiciable à nos populations paysannes. Ainsi, par les destructions de nos forêts et celles-mêmes censées être classées, avec la complicité notoire de nombre de nos cadres, des cadres Tachiantor, Tchankelao, oui, la complicité des cadres Nyamnikelao. Oui, la complicité notoire de nombre de cadres de nos régions et de certains gardiens de nos forêts, des soi-disant gardiens qui ne voient pas le bois passer le soir ou dans les corridors. Tchèque. Nous nous acheminons tous vers un suicide collectif. N'est-il pas temps d'abandonner nos méthodes archaïques de production qui ont montré leurs limites pour nous orienter vers de nouvelles techniques, des systèmes nouveaux où l'on utilise moins de terres pour produire abondamment? Par ailleurs, pour éviter qu'un autre cas semblable à la crise survenue à Guiglo, c'est appelé au civisme des cadres de nos régions, les Tchankela, car beaucoup de conflits dans le domaine foncier sont de leur fait. Les conflits de terre naissent parce que c'est les cardinaux cadres qui les font naître. En effet, beaucoup d'entre eux, beaucoup de nos cadres, se découvrent subitement une âme d'agriculteur. Jusque-là, ils ne savent pas qu'ils sont agriculteurs. C'est maintenant qu'ils découvrent l'âme d'agriculteur en eux. Beaucoup de nos cadres se découvrent subitement une âme d'agriculteur et incitent de ce fait leurs parents du village à spolier et chasser d'autres Ivoiriens déjà propriétaires d'exploitations agricoles. Voilà. Ils se découvrent subitement une âme d'agriculteur et incitent de ce fait leurs parents du village à spolier et chasser d'autres Ivoiriens déjà propriétaires d'exploitations agricoles. Ces infortunés sont taxés d'étrangers et contraints à la divagation vers une autre terre d'accueil. C'est pourquoi il faut faire attention à un vocabulaire nauséabond et tendancieux qui accourt dans nos cités. Autrement dit, l'on se plaît à parler d'autochtones, d'allochtones, d'allogènes ou d'autres expressions pour catégoriser les peuples et les populations. Attention, autochtones, allochtones, allogènes pour catégoriser les peuples et les populations. Attention! Attention à un récent discours empreint de haine et d'exclusion qui a donné lieu à des blessures profondes que nous peinons à guérir. C'est le lieu d'interpeller nos professionnels de médias, souvent abonnés à de tels propos qui mettent en péril la paix sociale. On dirait que des journaux sont nés dans l'unique but d'embraser le pays et ceux qui les animent trouvent le malin plaisir à offrir aux populations des nouvelles de mensonges fabriquées dans leur laboratoire de honte qui incite à entretenir un climat social délétère. Dans un tel contexte, la santé des populations devient préoccupante. Il y a beaucoup de gens qui ont eu l'hypertension. En effet, combien sont-ils gagnés par la peur et l'angoisse, développent des maladies qui affectent leur entourage. C'est pourquoi, au nom de la paix, il est urgent d'en appeler à la conscience professionnelle de nos hommes de médias et de culture. À toutes celles et ceux de nos concitoyens qui, par vocation, ont choisi de servir la nation dans les forces armées de défense et de sécurité. Je m'adresse aux forces armées de défense et de sécurité. Je salue la détermination et la foi avec laquelle vous défendez le territoire, les hommes et les biens, et souvent au prix de vos vies. L'Église comprend vos préoccupations. Il importe cependant, à ses yeux, que les revendications se fassent dans les règles de l'art militaire, à travers des pourparlers avec vos supérieurs et les autorités, de la transparence et la vérité, de la confiance et le respect. Car les mutineries de ces derniers mois ont plongé les populations de nos régions dans la peur et le désarroi. Rappelez-vous qu'elles ne sont pas totalement guéries du traumatisme de toutes les crises que notre pays traverse depuis des décennies. L'Église se mêle de ce qui la regarde. Et ce qui la regarde comme mission divine, c'est la paix. C'est le bien-être pour tous, monnayé de la justice et la réconciliation véritable. À toutes les forces vives de la nation qui font tourner l'administration, tous les secteurs privés et le monde agricole, l'Église vous salue et vous félicite pour tous les efforts que vous déployez chaque jour et qui ont permis le relèvement de notre pays. La croissance économique que connaît le pays est en partie votre œuvre. C'est votre courage et votre intelligence au travail qui ont permis à notre pays sa remontée spectaculaire après cette décennie de crise. J'exhorte dans la prière nos dirigeants à se pencher avec diligence sur vos préoccupations. Cependant, je vous recommande des voies moins destructrices que les grèves prolongées pour faire passer vos revendications. Notre pays sort progressivement de plusieurs décennies de crise qui l'ont ébranlé dans ses fondements. Déjà, nous saluons les différents accords signés entre vous et le gouvernement. Puissent ces accords être respectés. Puissent ces accords être respectés intégralement. Avec patience, regardons l'avenir avec espoir. À tous nos jeunes frères et sœurs de tous les milieux sociaux, je voudrais vous rappeler que de tout temps, l'Église a fait de vous l'une des priorités de sa pastorale. Vous êtes, pour toute la nation ivoirienne, l'avenir et l'espoir de la certitude du progrès et de la prospérité. Je vous exhorte à prendre Christ comme votre compagnon fidèle, car avec lui, vous êtes sûr de ne pas faire fausse route. Écoutez, l'Église qui vous parle de vous, les jeunes constituent en Afrique la majorité de la population. Cette jeunesse est un don et un trésor de Dieu, dont l'Église est reconnaissante au maître de la vie. Il faut aimer cette jeunesse, il faut aimer cette jeunesse, l'estimer et la respecter. Elle aspire profondément, malgré de possibles ambiguïtés, aux valeurs authentiques qui ont dans le Christ leur plénitude. Le Christ n'est-il pas le secret de la vraie liberté et de la joie profonde du cœur? Le Christ n'est-il pas l'ami suprême et en même temps l'éducateur de toute amitié authentique? Si le Christ est présenté aux jeunes avec son vrai visage, ils le voient comme une réponse convaincante et ils sont capables de recevoir le message, même s'il est exigeant et marqué par la croix. Un autre document du magistère de l'Église reconnaît ceci au sujet des jeunes. C'est durant la période de la jeunesse qu'émergent de façon irrépressible et sincère les questions sur le sens de la vie personnelle et sur l'orientation à donner à sa propre existence. Seul Dieu sait apporter une véritable réponse à ces questions. Cette attention au monde des jeunes implique le courage d'une annonce claire. Nous devons aider les jeunes à acquérir l'intimité et la familiarité avec les Saintes Écritures pour qu'elles soient comme une boussole qui leur indique la route à suivre. C'est pourquoi nous avons besoin de témoins et de maîtres qui marchent avec eux et qui les forment à aimer et à communiquer à leur tour l'Évangile, surtout aux jeunes de leur âge, devenant eux-mêmes des annonciateurs authentiques et crédibles. Chers amis jeunes, je vous exhorte à être dans vos milieux respectifs des apôtres de paix et de non-violence. Battez-vous pour exorciser la violence sous toutes ses formes de nos universités, lycées et collèges. Soyez des fervents partisans et artisans du travail bien fait en développant une conscience positive pour l'amour du travail. Vous allez découvrir la richesse insondable qui se dissimule derrière cette mission de l'homme. Tenez pour vérité divine que le travail est une bénédiction du Créateur qui donne à l'homme la plénitude de sa dignité. C'est donc à juste titre que le pape Léon XIII rappelle ceci. Le travail est droit fondamental et c'est un bien pour l'homme, un bien utile, digne de lui, car apte précisément à exprimer et à accroître la dignité humaine. L'Église enseigne la valeur du travail non seulement parce qu'il est toujours personnel, mais aussi en raison de son caractère de nécessité. Encyclique Rerum Novarum, numéro 128. Cette approche divine du travail permettrait à bon nombre de jeunes Ivoiriens de sortir définitivement de la paresse et de l'oisiveté qui sont la raison principale du fantasme du rêve européen qui favorise toutes les tragédies que vivent des milliers de jeunes Ivoiriens et Africains dans le désert du Sahara et les multiples naufrages de la Méditerranée avec leur cortège de morts et de disparus. Pour ceux qui arrivent à atteindre les rives de la terre promise, l'Europe comme terre promise, entre guillemets, le rêve européen d'une vie de prospérité débarrassée de la souffrance se transforme en un cauchemar de désillusion et de détresse. Et ces mêmes jeunes sont obligés de faire des travaux plus pénibles et plus humiliants pour leur survie. Alors les jeunes, est-ce que vous êtes là? Les jeunes sont là? Est-ce que vous êtes prêts à Bara? Est-ce que vous êtes prêts à Bara? Est-ce que vous êtes prêts à travailler ici et non ailleurs? À Bara où? Ici où? En Côte d'Ivoire. Oui, oui. Il faut Bara. Car ceux qui les rêveurs qui arrivent en Europe, découvrent que Thier, c'est un cauchemar de désillusion et de détresse. Et ces mêmes jeunes sont obligés de faire des travaux plus pénibles et plus humiliants pour leur survie. Êtes-vous prêts à travailler?
Oui.
Êtes-vous prêts à travailler?
Oui.
Je vous admire et je vous fais confiance. Je voudrais exhorter les pouvoirs publics à trouver, ce qui veut dire inventer, le modèle éducatif qui puisse donner à nos jeunes des aptitudes intellectuelles et professionnelles performantes pour le monde du travail. C'est avec le magistère, nous disons que la considération des implications morales que comporte la question du travail, de la vie sociale, conduit l'Église à qualifier le chômage de véritable calamité sociale, surtout pour les jeunes générations. Enfin, je voudrais lancer un cri de cœur à toutes les composantes de la société ivoirienne, mais surtout aux familles et aux guides religieux. Il est urgent de fédérer nos énergies pour mettre fin à ce triste et préoccupant phénomène des enfants appelés pudiquement enfants en conflit avec la loi ou enfants microbes. Car aucun enfant sorti du sein maternel ne peut devenir ex nihilo, un danger public et un échec pour son avenir et celui de ses parents et de la nation. Il y a eu quelque part, dans le processus d'éducation, une faille, une démission et un terreau favorable à l'éclosion de telles dérives psychologiques et sociales. Ces enfants ont besoin plus que jamais de l'amour de leurs parents, de l'encadrement des structures spécialisées de la société. La recherche de la paix sociale ne saurait s'accommoder de certaines négligences qui, à la longue, seraient fatales à toute la société. Je suis persuadé qu'avec le soutien maternel de la Vierge Marie, la Sainte Mère de Dieu, la mère de tous les enfants blessés par les erreurs politiques, par les erreurs des politiques et les systèmes de nos sociétés modernes, et l'intercession de Saint Jean Bosco, père et éducateur patient, et à viser des enfants rejetés par la société moderne, nous parviendrons à réinsérer tous nos enfants égarés dans le tissu social. Excellences, révérends pères, chers frères et sœurs, amis de Jésus-Christ et hommes de bonne volonté, puisse la célébration de cette Eucharistie, où Jésus-Christ se donne à nous comme pain de vie et comme communion à lui et entre nous, faire éclater toutes les barrières et toutes les résistances morales, sociales, spirituelles et culturelles qui retardent encore la pleine communion des fils et filles de notre beau pays. Êtes-vous prêts à cela? Êtes-vous prêts à cela? Vous mangiaillez. Et que la paix du Christ soit avec vous aujourd'hui,
demain et pour toujours, lui qui vit et règne avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles.
Radio Espoir vient de vous proposer l'homélie de son Excellence Monseigneur Antoine Koné, président de la Commission épiscopale Justice et Paix, à l'occasion de la célébration de la Journée de la Paix ce mercredi 15 novembre à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville. Merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur nous bénisse.
Soutiennent les fondations de